Vous venez d'entendre Tant quoi tonne de Olivier Kolietsky, un titre d'ailleurs qui a été choisi par le théâtre La Cité pour le teaser de la Biennale des écritures du réel. Et c'est justement de cette biennale dont on va vous parler avec Antoine Derlon, qui est administrateur au théâtre La Cité. Bonjour Antoine.
Bonjour Colline.
Alors, qu'est-ce que c'est le théâtre La Cité? Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce lieu?
C'est avant tout un lieu de convivialité, de rencontre et de création dans le domaine des arts vivants, mais pas que. Aussi dans tout ce qui peut, je dirais, être des actions de création de spectacles, d'actions artistiques, pédagogiques, projections cinéma, rencontres avec des auteurs. C'est un spectre assez large, mais qui a une particularité, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les écritures du réel, c'est-à-dire de travailler avec des artistes qui s'éprouvent au contact des sujets qu'ils souhaitent traiter par le biais de la scène ou d'un point de vue du texte ou de l'image.
Et le théâtre La Cité, c'est aussi un lieu de rencontre, il y a une bibliothèque, c'est un lieu accueillant une petite salle du coup de spectacle et une grande équipe pour le coup.
Oui, c'est ça, une grande équipe. En même temps, moi, j'ai toujours l'habitude de dire petites équipes et grands projets, mais avec la mobilisation d'énergie de toutes parts. C'est un théâtre qui a été créé, en tout cas, il a été créé par Florence Leray, cinéaste, et Michel André, metteur en scène, comédien, en 2005, avec l'aide à l'époque de la ville de Marseille et de la scène nationale Le Merlan. C'était un ancien cinéma d'art et d'essai, Cinéma des Suds, et il offre la possibilité aujourd'hui, dans une petite salle de 65 places assises, de fabriquer avec les habitants, les jeunes, les enseignants, les acteurs du champ social et éducatif et toutes les parties prenantes de nos créations.
Et vous parlez de grands projets, bah oui, bien sûr, c'est un grand projet parce que le festival qui a commencé la mardi va durer jusqu'au 12 juin, donc presque 2 mois d'événements, de créations, un peu tous les soirs. Et pourquoi d'ailleurs ce choix d'une biennale plutôt que d'un festival ?
Effectivement, le projet a été initié en 2010, première biennale en 2012, tout de suite avec cette idée qu'au Théâtre La Cité, on travaille avec des publics sur du temps long. Et on a toujours tendance nos efforts sont faits pour garder un maximum de temps les participants de nos actions avec nous et en contact avec les artistes. Et de fait, les créations de spectacles, d'ateliers, tout type d'actions, on les emmène, en fait, on veut les montrer au grand public. Et pour ça, il faut un minimum de 2 ans. Alors après, il y a des actions qui s'inventent sur une saison, mais parce qu'elles ont été conçues, je dirais, sur la saison précédente. Et c'est se donner du temps, en fait, pour prendre soin des sujets qu'on aborde.
Et donc la Biennale, c'est un peu la consécration donc, de ces ateliers partagés qui ont lieu au long cours sur ces 2 ans, c'est ça ?
Exactement, en tout cas une partie de la programmation, c'est ce moment de rencontre avec un public et de tous les partenaires et participants de nos actions.
Et l'autre partie de la programmation
Alors l'autre partie de la programmation, c'est des artistes qui viennent de partout en France ou même de l'international, qui en fait ont des démarches qui s'inscrivent dans ce que nous on défend comme écriture du réel, c'est-à-dire des démarches d'immersion, d'enquête, voilà, et d'écriture de plateau qui méritent en tout cas d'être vues et d'être découvertes par nos publics, et puis aussi des créations d'artistes compagnons avec lesquels on est sur des projets plus au long cours, voilà, et qu'on souhaite montrer, des espaces d'expérimentation, de labo, parce que c'est vrai qu'au Théâtre La Cité, il n'y a pas de jugement de valeur sur le format de ce qui est proposé au public au plateau, et que ce soit des créations partagées avec la jeunesse, avec les habitants, avec des enseignants, comme je le disais tout à l'heure, ou les autres propositions d'artistes, je dirais, dans des démarches plus professionnelles, ont pour nous la même valeur de programmation.
Et justement, donc il y a différents liens qui tissent ces spectacles entre eux, donc professionnels et non professionnels, et notamment ces liens, ces 6 thématiques que vous avez appelées traversées. Du reste, dans le programme papier sur chaque spectacle, un sigle rappelle la thématique, et ce sigle y est posé en haut de la page. Alors ces 6 thématiques, 6 traversées, ce sont s'écrire, travailler, danser, grandir, accueillir et bifurquer. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces choix de traversée ?
Oui, alors c'est toujours c'est entrer dans des cases, étant donné qu'on n'est pas un théâtre qui se propose d'être une vitrine de ce qui se fait sur le spectacle vivant aujourd'hui. On n'aime pas trop rentrer dans des cases, et en même temps c'est tellement dense comme programme qu'on avait besoin nous-mêmes et pour notre public de partager ce qui nous animait. Et ces thématiques, ces traversées, c'est finalement ce qu'on souhaite proposer. Alors elles n'ont pas, en plus, elles n'ont pas forcément toujours une valeur chronologique, une dimension chronologique, mais quand même. En fait, s'écrire, c'est parce que dans la démarche des écritures du réel, il y a toujours la question de la petite histoire et de la grande histoire, de voir le monde avec les yeux des autres et de l'intime. Donc c'est vrai que cette traversée s'écrire, c'est plutôt comment des artistes arrivent et souhaitent parler de leurs propres expériences et le mettre en lien avec la société, les mondes qui nous entourent et les phénomènes qui nous entourent. Travailler, c'est parce qu'il nous paraît essentiel aujourd'hui, étant donné l'importance du temps que nous passons à des activités professionnelles. Nous, on se pose beaucoup de questions et on n'est pas les seuls, et beaucoup d'artistes se posent ces questions-là de qu'est-ce que c'est que travailler aujourd'hui, dans quel contexte, comment ça nous anime ou pas d'ailleurs. Et on a différentes propositions comme celle-là qui propose de faire une réflexion, d'avoir une réflexion un peu sur cet environnement du quotidien. Danser, effectivement, on travaille, on est un théâtre, mais on travaille bien entendu avec des chorégraphes, et la question du corps et du mouvement au sens large nous anime aussi, et les écritures du réel, ces démarches-là ont tout à fait leur place dans un rapport avec la danse, avec le mouvement. Ça pourrait demain être la marionnette aussi, un champ qu'on n'a pas encore investigué. Et en plus de ça, on a la chance cette année de pouvoir faire une belle traversée danse et jeunesse à la Friche Label de Mai, en lien avec l'association LAMI qui organise Hip Hop Society. Voilà, c'est une belle traversée pendant les vacances aussi scolaires, ce qui me paraissait et partagé avec l'ensemble de l'équipe, important de proposer un temps de programmation aussi pendant ces temps-là, pendant les vacances. Grandir, alors ça c'est évident que quand on a, nous, 50% de nos actions étant tournées vers la jeunesse, et la jeunesse plutôt adolescente ou adolescente, entre 13 et 25 ans, forcément il faut s'intéresser de savoir comment ils vivent aujourd'hui, comment ils se projettent, quels défis ils envisagent pour l'avenir, ces jeunes, et comment on peut les aider à le partager avec le plus grand nombre. Accueillir, on est en plein dans une actualité, mais en fait une actualité qui existe depuis plusieurs années, parce que je rappelle qu'avant qu'on parle des réfugiés ukrainiens, on a quand même un certain nombre de réfugiés dont on ne parle que trop peu, qui sont les réfugiés climatiques, qu'on essaye de cacher derrière des réfugiés économiques d'ailleurs. Et donc on a développé tout un champ de pensée depuis déjà plusieurs saisons autour de la question de l'accueil, de l'hospitalité envers les migrants de toutes parts, et qui nous amène aussi à nous poser la question de l'étranger, de la différence, mais même dans notre quotidien, de notre rapport à l'autre. Voilà. Enfin, bifurquer, ça c'est un peu le leitmotiv. Cette traversée est un peu permanente chez nous, en tout cas dans ce qu'on souhaite défendre, c'est-à-dire le pas de côté. Comment on essaye d'éviter la pensée unique, les choix qui nous sont imposés de façon inconsciente, et comment on essaye de se déplacer. Et on essaye à la fois de se déplacer avec les artistes qu'on montre, mais aussi nous-mêmes dans notre travail. Et c'est une manière de fabriquer de l'action artistique un peu différemment. Et là, on a déplacé pas mal les choses dans des événements, des paris un peu dans l'espace public, notamment avec Alain Damasio, ses musiciens de Palo Alto, son texte des Furtifs, et aussi essayer d'agréger tout un pan de collectif d'habitants et de citoyens. On le fait aussi quand on va dans un hôpital, au centre hospitalier Valvert, et que grâce à l'énergie insatiable du bureau des guides du GR13, on arrive à concevoir, et tous les artistes et associations d'habitants de l'Est marseillais, donc je rappelle, c'est un genre de désert culturel d'un point de vue du spectacle, alors qu'il y a un gros bassin de population, on arrive à concevoir une journée où artistes, ferme pédagogique, hôpital, maison pour tous, association d'habitants, vont se retrouver, fabriquer des choses ensemble, se promener, rencontrer des artistes en musique. Donc ça, c'est une manière de se déplacer, en fait, aussi dans nos choix et dans notre travail.
Et vous, Antoine Derlon, alors vous êtes administrateur du théâtre, je le rappelle, est-ce qu'il y a une des traversées qui vous tient particulièrement à cœur ?
Bah, je pense que dans ce que je viens de dire, on sent que la jeunesse jeunesse dansée à la Friche, là, vraiment, ces 3 jours-là, et puis qui sont en fait une semaine de rencontres de jeunes de tout Marseille, me tient fortement à cœur, notamment parce qu'en plus de ça, il y aura la création du groupe de jeunes de la troupe qui existe, la troupe de jeunes danse qui existe déjà depuis 2016. Voilà, en lien avec Grandir, il y a la troupe de la metteur en scène Karine Fourcy qui existe depuis 2010-2012, donc 10 ans, c'est la quatrième création et ce sera une étape de travail qui sera présentée aussi. C'est des actions qui viennent de Marseille avec des jeunes Marseillais qui sont invités à créer un spectacle. Voilà, et je dois reconnaître que ces projets-là me tiennent fortement à cœur parce que c'est eux qui feront le monde de demain. Voilà, après, forcément, moi j'ai un coup de cœur tout à fait personnel pour la semaine prochaine, mais ça c'est vraiment tout à fait intime, mais les deux spectacles de Guillaume Caillé, qui est un jeune auteur dont les textes sont extraordinaires.
On va l'aborder voilà. Plus tard, on a même
ça,
un petit extrait.
Ça c'est vraiment mon coup de cœur à moi, perso, Guillaume Caillé, c'est un petit bijou d'écriture et qui nous amène à montrer vraiment les gens qu'on n'entend pas en fait, et à qui il arrive des choses extraordinaires et qui mènent des combats extraordinaires, et que c'est important de les avoir sur des plateaux.
Et ouais. Vous avez évoqué aussi Alain Damasio, donc l'écrivain qui sera aussi présent pendant cette Biennale des écritures du réel. Je vous propose une petite pause musicale avec Alain Damasio justement, et Rhône, ensemble, Bora Vocal.
De merde quoi. quoi, c'est comme extraordinaire.
Vous êtes sur Fréquence Mistral et je suis toujours avec Antoine Derlon, administrateur du Théâtre La Cité, qui organise jusqu'au 12 juin la Biennale des Écritures du Réel. Et justement, on va parler un peu plus de la programmation. La Biennale commence par s'écrire avec demain, donc samedi, on sera samedi 19 mars, et après-demain, dimanche 20 mars, une conférence performée en fin d'après-midi au Théâtre La Joliette et au Théâtre La Cité de Carole Thibault, à intitulé Longueuil, Texas. Et cette conférence est succédée par un spectacle un peu plus tard le soir, sur les deux jours du week-end aussi, au Théâtre La Joliette, Fado dans les veines, de Nadège Prugnard. Alors quelques mots sur ces deux spectacles, Antoine Derlon.
Oui, alors on pourrait dire en fait ce plateau partagé là, en fait, entre Nadège Prugnard, Carole Thibault, enfin pas plateau partagé, mais c'est cette traversée partagée, et aussi la rencontre auteur-autrice face au réel dimanche, qui conviendra Guillaume Caillé et Céline Aurel, en partenariat avec la Chartreuse, donc Centre National des Écritures du Spectacle de Villeneuve-les-Avignon. Mais effectivement, c'est pour nous des symboles de comment se raconter en tant qu'artiste, mais pas de façon, comme si ils avaient un regard supérieur ou différent de ce que peut être la société, mais en tant que justement gens et toute personne et membre, et comment de leur histoire elles font des liens avec des mouvements qui nous animent tous, quelque chose d'universel, puisque Fado dans les veines, bon, Nadège Prugnard, c'est une artiste dont la compagnie est basée en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui vit depuis plusieurs années à Marseille. Nadège est une artiste auteur, metteuse en scène et comédienne, donc extrêmement complète, et on avait présenté une première lecture No Border, qu'on reprogramme dans la Biennale, sur son immersion dans la jungle de Calais. Et c'est exactement ce qu'on souhaite défendre, c'est comment les artistes aussi, à un moment donné, expriment sur le plateau comment ils sont traversés, comment ils interagissent avec leur sujet, en fait. Et c'est pas que raconter les paroles de migrants de la jungle, mais c'est comment elle, en tant que personne, elle a été percutée, bougée par ça. Fado dans les veines, c'est son histoire, en tout cas l'histoire de sa famille qui a dû fuir le Portugal. Et c'est vraiment, alors en plus là, une mise en scène politique, poétique, en musique, dans un contexte assez punk et très beau, sur comment on se construit en tant que personne issue de cette immigration-là. Carole Thibault, c'est un récit performé effectivement sur en fait son père, son grand-père qui travaillait dans la sidérurgie en Lorraine à Longwy, voilà, et comment elle fait comment elle a été elle-même empreinte de cette histoire-là, de cette histoire ouvrière et de cette histoire paternelle et masculine. Voilà, et Guillaume, qui arrivera lundi et jeudi plutôt sur la question du travail, qui c'est pas sa propre histoire, mais ce sont trois auteurs, autrices avec la Chartreuse qu'on avait, choisi ensemble il y a un peu plus de 2 ans, avec l'ancienne directrice Catherine Dan et qui est suivie et poursuivie par le travail de la nouvelle directrice Marianne Clévy. Il nous a paru essentiel de les réunir autour de la table. Alors Céline Aurel, moi je connais un peu moins son travail, mais elle est aussi dans cette même dynamique. Michel André, le directeur artistique, metteur en scène de la Cité aussi. Donc ça me paraît très intéressant de réunir et d'échanger, qu'ils échangent ensemble et échanger avec le public sur qu'est-ce que ça veut dire écrire le réel aujourd'hui, écrire le monde qui nous entoure, écrire, apporter la parole des gens, le récit des autres. Voilà, et on avait déjà initié une première conversation l'été dernier pendant le festival OFF d'Avignon. Et là, on poursuit et ressortent de ça des choses très intéressantes pour le tout public et pas que à usage des artistes, des professionnels.
Alors, vous évoquez Guillaume Caillé, en plus comme coup de cœur de personnel de ce festival. Guillaume Caillé qui vient avec 2 spectacles. Et le premier, donc, c'est la semaine prochaine.
Les deux ont lieu lundi. Alors, le premier a lieu lundi. Il y a une représentation à 15h, un lundi après-midi, pour ceux qui auraient la disponibilité, et j'en doute pas qu'il y en a, et le soir à 19h30. Alors, Grès, tentative de sédimentation, c'est une création cette année. Guillaume s'est intéressé et porte le récit d'un agent de sécurité qui, à un moment donné, n'a plus d'autre choix dans l'intime et dans sa vie personnelle que d'aller manifester sur un rond-point aux côtés des Gilets jaunes, tant sa condition d'homme au travail lui est devenue insupportable. Un agent de sécurité qui, somme toute, n'a jamais été politisé, était très éloigné de ces questions-là. Et c'est éminemment passionnant de voir comment, à un moment donné, notre corps, notre esprit n'a plus d'autre choix
que de se révolter
et d'ailleurs de se réunir avec l'autre, avec les autres, dans un but commun qui est celui de la considération de ce qu'il est en tant qu'individu et de sa condition d'homme. Voilà, c'est un très beau texte, voilà, et mis en musique. C'est un seul, enfin c'est un musicien, un comédien, avec pareil, c'est assez épuré, mais dans lequel le jeu porte toute la parole de cette personne, et la musique qui envoie un univers qui soutient complètement le texte, qui est vrai d'ailleurs, ce qui est tout à fait en lien avec Fado dans les veines de Nadège. Alors Fado, je vais le découvrir ce soir, mais ils étaient en résidence, c'est avec 2 chanteuses de Fado, des musiciens punk, enfin c'est des bijoux de ce qu'on peut voir aujourd'hui au spectacle, et puis c'est des spectacles qu'on voit pas ailleurs à Marseille ou en région.
Qui mêlent musique live
et comédien.
Et ça tombe bien parce que j'ai un extrait donc de Grès, tentative de sédimentation, un extrait sonore qui est tiré du teaser du spectacle. Alors je vous fais écouter ça, peut-être que ça va susciter l'envie d'aller le lundi 21 mars au théâtre La Cité.
L'histoire des Comme Moi était avant tout l'histoire d'une répétition. Nous ne prenions pas souvent la parole, ne répondions pas grand-chose, attendions que tombent les week-ends et les jours de relâche et la paye dans l'assiette. Nous ne parlions pas beaucoup de politique à la maison. Parler du pain qui était un peu dur parce qu'on l'avait acheté hier nous suffisait. Dire la surface nous avait toujours rendu profond. Nous préférions la rumeur du lointain à la crasse du proche. Bien content d'appartenir à cette face-là du monde. Ce qui nous faisait préférer la mesure, la juste mesure à la rage d'un ailleurs incertain. Nous n'avions pas de problème d'insolence, ou alors juste à l'école. Puis l'âge prenait la relève. Les comme moi battaient alors leur colère en neige pour en faire un gâteau de vivre ensemble. Il fallait bien vivre quelque part. Nous préférions la répétition à son absence.
Le soir, quand je rentre à la maison, je ne dis pas grand-chose. La moitié est déjà là, c'est bizarre. Je lui dis « ça va, tout va bien ?» Elle me dit « oui, tout va bien, on a juste eu un problème de découpe à l'abattoir, mais ça va. » Je dis « d'accord », elle me sourit, et on en reste là. J'ai lu dans le journal local que l'abattoir avait des problèmes, mais ce soir on n'en parle pas. On mange avec les gosses, la grande est en troisième, je lui dis « alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Son frère répond chômeuse. Je lui dis « ça ne fait rire personne. » Quand les gosses sont couchés, je regarde ma moitié, elle est allongée sur le canapé, la télécommande rebondit sur son ventre. Je ne répète pas la question contractuelle du « tu es sûr que ça va ?» parce que je sais qu'au fond de moi, je sais.
Les comme moi avaient connu les longues routes, les bouchons interminables, les guéguerres entre juilletistes et haoussiens, les vacances au bord de mer alignées comme des tombes, les karaokés sur une plage désertique qui lavaient nos plaintes. Les comme moi avaient connu ces moments éblouissants qu'ils se ressassaient en boucle à la reprise du travail, attendant l'été prochain ou l'hiver suivant, en déplorant les morts qui n'y auraient pas droit. Et parfois, les comme moi se délassaient dans de petites fugues quotidiennes pour oublier un instant l'éternel retour du pointage, du parking, de l'usine.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral et on vient d'écouter un extrait du spectacle Grès, tentative de sédimentation qui sera présenté pendant la Biennale des Écritures du Réel, un événement porté par le Théâtre La Cité, et Antoine Derlon est avec moi. Alors à partir du 21 mars, à partir de ce spectacle Grès, tentative de sédimentation de Guillaume Canet, on se déplace vers la thématique où traverser, travailler, c'est un peu ce qui lie les spectacles qui suivent, un infinitif voilà, qui relie les différentes créations en représentation jusqu'au 26 mars. Et en effet, on peut évoquer à la suite la lecture du texte « À la ligne » de Joseph Pontu par Gillien Pillet avec la collaboration artistique de Michel André, qui est justement directeur artistique du Théâtre La Cité. Alors, est-ce que vous, Antoine Derlon, vous avez lu ce livre « À la ligne » de Joseph Pontu ou entendu parler d'eux?
Non, alors moi je ne l'ai pas lu, mais en tout cas je sais de quoi il retourne. Joseph Pontus a beaucoup écrit en fait sur son travail d'intérimaire à l'abattoir et de cette condition ouvrière au travail. Et je vous garantis que le binôme de Gillien Pillet, avec qu'on avait nous programmé dans une précédente biennale où il jouait le représentant de cacahuètes dans des bars et des cafés sur une question liée à l'alcool, de façon quand même tout à fait sérieuse mais légère en même temps, et Michel André, le binôme devrait être assez joyeux et nous apporter un bel éclairage sur ce très bel ouvrage À la ligne, un ouvrage de référence. Joseph Pontus nous a quittés il y a peu de temps, mais on a lu des extraits, nous, en réunion de travail, on se lit des bouquins. On commence toujours par se lire des bouquins, se raconter des films, se montrer des choses, ce qu'on appelle les retours d'expérience artistique, et ça, vraiment, c'est un très bel ouvrage, tout à fait accessible, dans lequel, en plus, la musique, pour Joseph Pontus, c'était assez intéressante, en tout cas les sons, et voilà, donc après, effectivement, Guillaume est avec Grès, il vient avec 9 mouvements pour une cavale la veille, qui est l'histoire d'un agriculteur qui s'est converti au bio et qui, un jour, a refusé de se soustraire à un contrôle sanitaire et il en a perdu la vie, tiré par 6 balles dans le dos par des gendarmes. Fait divers de 2017. Voilà, Joseph Pontus qui raconte la difficile, très difficile condition des ouvriers à l'usine. Et on arrive le samedi 26 mars à organiser finalement un magnifique événement avec la merveilleuse énergie des Fralib. L'usine Fralib à Gémenos qui, après 1336 jours de lutte, ont réussi à racheter leur outil de travail à la société Unilever. Et cette journée, qui va être une journée de découverte et de rencontre avec les coopérateurs, puisque c'est une coopérative désormais, et les bénévoles de l'association Fraliberté, finalement, nous montre quoi et nous dit quoi. C'est que tous ces sujets liés au travail et à notre condition d'homme, qui sont effectivement très très durs, parce que la Biennale, on pourrait nous reprocher, on pourrait nous dire, oh là là, aller au théâtre et pour finalement se retrouver avec des nouveaux problèmes, qu'on nous matraque déjà avec plein d'autres sujets, et puis c'est vrai que notre journée, on a juste envie de se divertir, mais en réalité, pour nous, c'est pas la question de... c'est justement un prétexte, mais autant se retrouver, se rencontrer, échanger et passer du temps ensemble sur des sujets qui sont essentiels et nécessaires, et qui ne sont pas que plombants, enfin qui sont même loin d'être plombants. Ces spectacles et ces propositions qu'on invente, quand on voit l'histoire des Fralib, quand on ressort de ces spectacles, il y a toujours de ces artistes, en tout cas, une belle note d'espoir, d'espérance, de joie malgré tout.
Voilà. Des idées d'émancipation.
Des idées d'émancipation, d'éducation. C'est extraordinaire d'aller à l'usine, enfin chez eux, et de discuter avec la personne qui vous ouvre le portail pendant une heure, de discuter avec le président de la coopérative, Olivier Leberquet, ou ses collègues, voilà, d'accueillir le spectacle de Philippe Durand qui raconte ses 1336 jours de lutte, de programmer un musicien, je dirais, extraordinaire, qui a enregistré des sons d'usine et qui nous propose une immersion. Dans ce qu'on appelle, moi j'ai découvert, un acousmonium, donc le public est au centre et les sons sont envoyés de tous les côtés avec des sons d'usine, et qui nous raconte quelque chose en 20 minutes là-dedans, et qui, là encore, l'histoire de partager avec le son le quotidien de ces personnes, et au contraire ne pas penser que les titres évocateurs, les sujets aussi qu'on souhaite traiter nous dans la Biennale et avec le théâtre, ça va être prise de tête. En fait, justement, tous ces spectacles, ils ont rien de prise de tête, en réalité ils ont tous la vertu d'aborder des choses compliquées avec des mots et des mises en scène simplistes et limpides, et qui nous permettent de nous redonner de l'énergie. Donc en tout cas, moi personnellement, ce que j'apprécie dans tous ces auteurs, metteurs en scène, comédiens, et toutes les rencontres qu'on essaye d'insuffler, c'est que ça me redonne de l'énergie.
Pour s'indigner aussi ? Est-ce que c'est une façon de dire indignez-vous
ou... Je sais pas, en tout cas... Est-ce que, pour éviter de penser que la politique est réservée qu'à une certaine caste, que la réflexion est réservée qu'à certaines couches de la population, au contraire, je pense que non. Et le théâtre doit faire ça, se doit de réunir et de montrer qu'on a tous des choses à se partager, à se dire, et qu'on peut tous se rejoindre à un endroit, même si on n'en est pas d'accord, mais en tout cas, on se fait grandir les uns avec les autres. Et ces artistes-là, c'est ce qu'ils cherchent uniquement, c'est grandir au contact des autres.
Eh ben, on écoute un extrait sonore de la pièce que vous venez d'évoquer très rapidement, qui sera présentée pendant cette journée particulière du 26 mars. Donc la pièce, c'est 1336 Fralib, qui revient du coup sur ce combat à l'usine Scopti. Et c'est Philippe Durand qui a créé cette pièce. Donc on écoute l'extrait.
Tu rentrais en 1972, à l'âge de 16 ans. Au début, on n'était que des femmes, et je suis resté jusqu'à l'annonce de la fermeture. Ils avaient dit qu'ils fermaient le Havre pour tout regrouper sur Gemnos, pour faire une usine européenne, que aujourd'hui regardez. Ils nous refont la même chose, quoi. Les patrons, quand ils faisaient une réunion avec nous, tu voyais clairement qu'ils avaient envie d'être molestés et qu'ils avaient envie qu'on les séquestre. Tenir une usine, c'est illégal. Mais vouloir garder son emploi, eh bien, c'est quelque chose de moral. Et donc, on s'est lancé dans le combat. Comme dans les films américains, tu sais. Ils arrivaient à trois voitures. Le directeur, il sortait de la voiture du milieu. Aussi sec, il sortait avec les parapluies. Des fois, quand on allait lancer des grenades, des cocktails Molotov, tu vois, bon. On a fait nos t-shirts. Unilever, tu l'emploi, c'est passé de partout. C'était notre habit. Et derrière, il y avait le signe de l'éléphant. L'éléphant est français, en Provence, il doit rester. La multinationale clamait haut et fort qu'on avait tout cassé à l'intérieur. Un ouvrier ne cassera jamais son outil de travail. Il le respecte trop. Il le bichonne, il l'huile, il le règle. J'ai refusé 90 000 euros, les gens ne comprennent pas. Hein. Mais pourquoi tu ne les as pas pris ? Parce que je veux un futur. Je veux créer quelque chose. Je veux laisser quelque chose quand je partirai.
On l'a entendu tout le long de ce début d'émission sur Fréquence Mistral. La Biennale des Écritures du RL, ça va être riche en propositions de création sur différentes thématiques. Alors merci Antoine Derlon d'être venu, d'avoir été présent et d'être venu assez rapidement jusqu'au studio marseillais de Fréquence Mistral pour nous parler de cette programmation dense et variée autour des écritures du RL. Un festival qui vient de commencer cette semaine et qui, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas disponible en cette fin mars, parce qu'on a évoqué les spectacles de cette fin mars, va durer jusqu'au 12 juin. Alors je vous incite à aller voir sur le site théâtrelacité.com pour voir toutes les propositions. Merci Antoine et à bientôt.